France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La caricature, hein, l'époque aussi, c'est Frédéric Becbédé qui l'a déjà décrite dans 99 francs, c'est dire comme ça date pas d'hier, ce monde parisien de la pub où la coke circulait sur des plateaux. Il y a aussi eu cette image des années 90 à la télé où tout le monde passait par la case ligne de coke pour aller bosser, pour faire la fête le jour, la nuit. Enlevez-vous ces images de la tête. Imaginez plutôt le restaurant où les horaires sont décalés, très extensibles aussi, et c'est épuisant. Imaginez n'importe quel milieu, n'importe quelle boîte avec un rapport à rendre, il est 2h du matin, c'est pas fini et le rapport c'était pour hier. Imaginez l'Assemblée nationale, des quatre députés addicts à la drogue, la poudre ou les cachetons de synthèse, il y en a eu. C'est pas forcément facile à avouer, mais tout ce que je décris là, c'est peut-être vous ou l'un de vos collègues de travail. La drogue est entrée dans l'entreprise, c'est pas une nouveauté, l'alcool est entré dans le monde du travail, c'est pas neuf non plus, mais l'augmentation ces 8 dernières années est assez dingue. Plus 107%, c'est ce que dit une étude Paris Aujourd'hui dont on va parler. Des chiffres obtenus grâce au dépistage de 110 000 personnes, donc dans des entreprises qui dépistent, ça veut dire qu'elles sont déjà alertées sur les conduites à risque. Qu'est-ce que ça dit du monde du travail quand on a besoin d'un booster chimique pour tenir? On ne parle même pas des moments festifs, on parle des cadences, on parle du rythme, on parle de la pression, on parle de tenir le coup, on parle de ne pas décrocher. On parle aussi d'une banalisation, d'un accès tellement simple, il suffit d'un SMS ou d'un message WhatsApp pour voir débouler la marchandise. On verra ensemble s'il faut dépister, prévenir de manière bien plus significative, si c'est plutôt le travail qu'il faut dépister plus que ses conséquences. Et puis surtout, vous allez nous raconter, nous, ce que vous savez, ce que vous voyez, ce que vous consommez peut-être aussi, et pourquoi, vous qui êtes salarié, chef d'entreprise indépendant, ou pourquoi pas député, si le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bon, le député, j'y crois qu'à moitié, mais allez savoir. Le premier en attendant, Raoul, c'est vous, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui. Non, moi je suis extrêmement triste, je travaille dans le milieu du spectacle depuis plus de 35 ans. Bon, j'ai connu les années télévision, comme vous avez dit, ouais. Canal, avec des, voilà, de la coke qui était un peu partout. Donc quand on est jeune, on rigole, on trouve ça festif, et puis on tient le coup, on a la santé. Mais 35 ans après, le regard que j'ai là-dessus est très triste, parce que là, je viens d'accompagner un copain qui était en hôpital psychiatrique et en cure de désintoxication, qui est un beau mec, costaud, puissant, j'aurais jamais imaginé. Et avec toutes les doses qu'il s'est envoyées, la tête a flanché, quoi. Mmh. Et ça fait des années qu'il se perd là-dedans. Après c'est assez grave parce que voilà, moi je suis à être choisi et à choisir des équipes avec lesquelles je travaille dans le cinéma ou ailleurs qui ne prennent pas de coke. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des équipes entières, et par contre je vais aller à contre-pied de ce que vous venez de dire, c'est pas que pour tenir le coup, certains c'est vraiment festif, et franchement ils tiennent pas bien le coup, hein. Au bout d'un mois de boulot, ils sont pas beaux à voir. Donc c'est pas génial, c'est triste, il y a beaucoup de gens qui s'abîment, et c'est très...
Mais ce qui est fou, Raoul, c'est qu'en plus vous êtes dans un milieu où, pardon de le dire comme ça, c'est un peu caricatural, mais c'est pas complètement incongru, j'allais dire. Enfin, vous voyez, on peut s'attendre à ce genre de choses. Donc ça veut dire que ça se sait, et ça veut dire que ça circule. Ça veut dire qu'il n'y a jamais personne, au fond, ou à de très rares exceptions près, pour taper sur l'épaule de ceux qui sont cocaïnés en lui disant « tu vas dans le mur ».
On essaye, en montrant autre chose, mais on passe pour un rabat-joie, et on passe pour un connard, ou pour quelqu'un qui veut vous empêcher d'être heureux, de faire la fête. Vous savez, quand vous partez 3 mois, 4 mois sur un tournage, et que tous les soirs c'est la fête, on dort ensemble, on vit dans des logements, etc., c'est sympa. Donc il y a ce côté festif qui fait que... Malheureusement, voilà. Mais il y a beaucoup de gens que j'aime dans ce métier, et du coup, ça me rend vraiment triste, parce que j'ai beaucoup d'amis que j'ai perdus, parce qu'ils travaillent.
Ah bon,
qui consomment.
J'ai eu peur. Voilà. J'ai cru quand vous avez perdu, Raoul. Ah. Mais on a entendu la fin de votre... Non. On a entendu ce que vous nous dites. Merci beaucoup. Merci de cette entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Jean-Jacques Cadeau qui est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président fondateur d'Itilo, l'entreprise de prévention et de dépistage en entreprise. C'est votre étude, votre analyse de la consommation de la drogue et de l'alcool, d'ailleurs aussi en entreprise, qui nous a donné matière à cette émission. Il y a Jean-Claude Delgène. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président fondateur du cabinet Technologia. Vous êtes expert du monde du travail. travail. Votre premier livre qui avait été coécrit avec Christophe Rogier, si je ne me trompe pas, s'appelait « Drogue et addiction au travail, comment les prévenir ?» aux éditions Fauve à l'époque. Il y a Alexis Péchard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes addictologue, fondateur de GAE Conseil, cabinet spécialisé dans la prévention des conduites addictives au travail. Je commence avec vous, Jean-Jacques Cadeau. Est-ce que vous reconnaissez Raoul, au fond, et ce qu'il nous raconte dans ce que vous avez sorti aussi de votre étude ?
Mais tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter pour échanger à ce sujet. Il y a des propos qui m'ont interpellé dans son témoignage qui est très juste. Il a parlé de personnes qui partaient ensemble pendant plusieurs mois et en fait il y a un type de consommation que l'on sait assez avéré. Les personnes par exemple qui sont en grand déplacement, donc qui vont partir ensemble pendant plusieurs jours, ce sont des modes de travail qui sont aussi qui sont propices à des consommations de groupe. Et de fait, on observe...
C'est vrai que vous dites que c'est contagieux, en fait, si votre voisin prend un rail pour dire de la coke, et puis l'autre, etc. Au gros, si vous le faites pas, c'est un peu ce que disait Raoul, vous êtes le rabat-joie du coin, quoi.
C'est malheureusement, alors, on n'est pas là pour observer l'envers du décor, mais c'est tout à fait ça. Nous, ça nous arrive de dépister sur des équipes de nuit, par exemple. Récemment, on a dépisté un chantier, 24 personnes, 8 positifs à la cocaïne. L'une des personnes positives nous a dit, bah oui, il y a un collègue qui a ramené ça, on a tous tapé dedans, en fait.
Donc... Vous dites chantier, je disais tout à l'heure qu'il y avait plein de métiers qui étaient concernés, on a parlé de la restauration, on y viendra probablement, enfin moi j'ai découvert qu'il y avait des pêcheurs qui prenaient aussi des trucs pour tenir, même des gens qui font du bateau de plaisance, enfin qui emmènent des touristes, enfin j'ai été scotchée par l'éventail, en fait, des endroits où on trouve la drogue.
Ça reste, alors, ce sera plus au l'addictologue après de Monsieur Péchard de commenter, les cohortes constantes de Santé publique France ont montré que ça reste un sujet assez transverse à la société, qui touche beaucoup de catégories socioprofessionnelles, et récemment, il y a eu encore une étude du service de santé vous évoquiez les marins pêcheurs, il y a eu des reportages très récemment sur une vraie banalisation des consommations chez les marins-pêcheurs.
C'est fou, hein, chez les marins-pêcheurs quand même. Alexis Péchard, quand j'entends à la fois ce que nous dit Jean-Jacques Cadeau et ce que nous disait notre auditeur aussi, cette espèce d'effet d'entraînement, on sait qu'il existe sur l'alcool, on en a fait aussi 1000 émissions. Et c'est fou de se dire quand même que ça existe aussi sur la drogue, qu'on parle de coke, qu'on parle de médicaments, de drogue de synthèse, etc. Ça parle aussi de la banalisation, en fait. Ouais. Quand votre voisin le fait, vous dit « vas-y, tu devrais essayer », et qu'on trouve ça normal d'essayer.
Effectivement, aujourd'hui, on constate vraiment ce phénomène de banalisation qui est très fort. Alors, sur la question de la cocaïne, bien sûr, le cannabis également, bien on n'en a pas encore parlé. Mm-hmm. Vous évoquiez la question des nouveaux produits de synthèse. Il y a plus de 450 produits aujourd'hui, qui sont malheureusement accessibles et dont on parle de plus en plus, qui sont aussi extrêmement accessibles. C'était rappelé tout à l'heure en matière de disponibilité, d'accessibilité.
Il suffit d'un SMS, savoir où l'envoyer.
Disponibilité. Donc, ça, c'est une réalité. La question de l'entraînement par les autres est l'une des raisons, effectivement, dans le milieu professionnel pour lesquelles on est amené, effectivement, à consommer. Et la question des grands déplacements, c'est des choses que nous, on constate et qui nous sont remontées, effectivement, par des entreprises qui ont ce type de pratique professionnelle.
Après, Jean-Claude Delgène, vous qui avez vraiment travaillé sur cette question également, on a bien compris qu'on ne découvrait pas la Lune non plus. Enfin, vous voyez, on ne tombe pas de notre chaise. Là où on tombe de notre chaise, c'est sur le côté exponentiel. Qu'est-ce qu'il dit ce côté exponentiel, et puis surtout, est-ce que c'est que le fait que c'est facile à se procurer? Enfin, ce serait tellement trop simple si c'était simplement la manière de s'en procurer.
Alors, il faut souligner l'étude qui est très intéressante parce qu'elle donne des chiffres. Et nous, on a beaucoup travaillé à technologie avec les équipes sur des situations concrètes, mais on n'avait pas une vision générale. Et ça, c'est très intéressant, l'étude qui est sortie. Alors, ce qu'on constate, c'est trois choses, en fait. Il y a premièrement un phénomène d'importation, c'est-à-dire des gens qui, en fait... de manière ludique, utilise et importe dans l'entreprise. Le deuxième constat, ce sont des individus qui sont confrontés à l'usage et qui vont souvent par contagion plongée. Et puis la troisième, c'est ce que vous avez dit en entrée, c'est-à-dire le fait que aujourd'hui le culte de la performance, le culte de la recherche absolue de l'efficacité oblige les individus pour s'adapter à utiliser, je dirais, des boosters en fait, hein, chimiques, avec tout ce que ça a comme conséquence. Et moi je dirais, je le dis tout de suite aux auditeurs, attention, parce que la drogue est un, je dirais, c'est un usurier. Il vous fait un petit, il vous rend un petit service au départ, mais il vous le fait payer très cher après. Tant en termes de maladies psychiques, en termes de santé, même y compris en termes professionnels. Parce que, de plus en plus, malgré tout, on voit qu'il y a des sanctions qui sont, en fait, la fin de la carrière, le licenciement. Mmh. Et donc, il faut faire attention à ne pas se laisser aller et à maîtriser, en fait, à contrôler sa consommation, à ne pas, y compris, s'exposer sur le plan professionnel.
Ah ben, vous m'étonnez, oui, j'allais dire maîtriser et même arrêter, c'est aussi bien sur une radio de service public. Voici Alinou qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Il n'y a pas grand-chose que je puisse rajouter. Raoul a déjà eu un très bon témoignage sur ça, mais on peut parler aussi des chauffeurs routiers. Mmh. On peut parler de sur les chantiers. En effet, j'ai entendu vos invités qui en parlaient. Et c'est un phénomène qui a été amplifié, je pense, depuis une quinzaine d'années. Vous parlez de 8 ans, mais je pense plutôt d'une quinzaine d'années, car j'ai vécu en Colombie. Et en Colombie, les personnes qui donc étaient appelées à utiliser les drogues de performance, hein, donc tout ce qui est coke essentiellement donc en Colombie, ils ont eu un problème. Au départ, les étudiants ne l'utilisaient pas. C'était une drogue qui était vouée à l'exportation. Et de par le pays entrant de plus en plus dans une économie vivace, les jeunes ont cherché à devenir plus performants et ils ont commencé aussi à avoir des problèmes de coke, alors qu'ils n'en avaient pas. Ils exportaient. C'est arrivé par les ports, et c'est un grand marché, c'est arrivé par le nord, c'est arrivé par le sud. Je l'ai vu dans la jeunesse espagnole aussi, j'avais un bar en Espagne, je voyais des gamins de 15-18 ans qui le soir, avant de partir en boîte, se faisaient des rails de coke sur mes glaces de mon bar. J'ai toujours essayé de leur en parler, leur disant, vous savez, ça va pas vous rendre plus intelligent, pour l'instant vous avez l'impression d'être les maîtres du monde, mais quand vous allez rentrer demain, vous allez être mal, donc qu'est-ce qu'on fait? Ils prennent des Lexomil, ils prennent d'autres substances pour calmer les angoisses que ça peut générer, parce que c'est la performance, ça use, oui. c'est comme si vous mettez de l'éther dans un moteur essence, hein, ça crame tout, et le pire c'est que par la suite, il y a une escalade. Certains, vous parlez de descente, moi je parle d'escalade, c'est-à-dire qu'il y a une escalade réellement, comme les drogues n'agissent plus vraiment sur la performance, on va chercher quelque chose de plus fort, on va chercher quelque chose, plus de doses, plus, et on finit mal.
Merci beaucoup, Alinou, merci pour ce témoignage. Très rapidement, Alexis Béchard, effectivement, vous, avec votre casquette d'addictologue, plus on en prend, plus on en veut, et on finit toujours par passer à autre chose. Est-ce qu'à la fin, le corps s'habitue, en fait?
Effectivement, on parle d'accoutumance, hein, d'un point de vue purement physiologique. Ouais. Après, il y a la dépendance qui peut s'inscrire. La dépendance, elle est triple. Elle est psychique, d'abord, liée au produit, avec l'association que la consommation d'un produit va s'associer à une forme de récompense. Et pour se sentir bien, retrouver une forme d'équilibre, etc., seule la consommation va permettre de répondre à ce besoin. La dépendance, elle est également physique, purement, au produit. Le corps va réclamer, autrement, vous allez avoir des symptômes de manque, hein, qui sont très bien décrits. Et puis, vous avez une dépendance qui est sociale également. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ce spectre-là qui est étudié quand on parle de dépendance.
Jean-Jacques Cadeau, vous parlez d'augmentation ces 7-8 dernières années. C'est parce que c'est le panel aussi que vous avez étudié, tout simplement. Tout le monde parle, et vous aussi, dans votre étude, d'une accélération depuis le Covid. Pourquoi une accélération depuis le Covid?
Alors, nous ne sommes pas sociologues pour pouvoir commenter et évaluer ce phénomène-là, mais voilà, il y a quand même cette temporalité, nous, qui nous a interrogés, entre cette période pré-Covid et cette période post-Covid, où on a vraiment observé une, au global, hein, que ce soit sur l'alcool ou les stupéfiants, une hausse des consommations. Après, post-Covid, on a vraiment vu cette courbe, pour parler particulièrement de la cocaïne, s'accélérer de manière assez importante.
On sait répondre à cette question, Jean-Claude Delgène, sur le passage Covid ou pas?
Oui, en fait, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'on a eu une rupture des rythmes collectifs, c'est-à-dire que chaque individu est connecté à des rythmes sociaux. Et donc, cette rupture des rythmes collectifs a conduit un certain nombre de personnes à perdre leur routine, à être dans l'angoisse, dans l'anxiété. Ça, c'est la première chose. Et donc, on a, par exemple, on sait aujourd'hui que depuis Covid, on a une augmentation de 25% des dépressions en France. Vous voyez, donc c'est quand même pas rien, 25%. C'est une croissance très forte. Et deuxièmement, avec, y compris l'émergence du télétravail, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées isolées à devoir faire face à de la complexité. Et parfois, de la complexité redoutable. Alors qu'auparavant, sur le lieu de travail en présentiel, on avait toujours un collègue pour aider, pour trouver une solution. Là, on s'est retrouvé dans des situations où les gens ont été jugés sur leur delivery, tout seuls dans leur maison, à ne pas savoir quoi faire. Et donc, ils se sont boostés très souvent, y compris en travaillant tard le soir. On a eu des burn-out numériques classiques, nous, on les a constatés. Et très souvent, c'était avec... Il faut comprendre que les addictions sont vraiment liées au RPS. Très,
RPS
très sous, aux risques psychosociaux. Okay. C'est très lié.
Peut-être aussi d'ailleurs que alors c'est vrai qu'on parlait de banalisation tout à l'heure et de facilité, mais quand on est chez soi pendant le Covid, c'est tellement plus facile, du coup personne ne le voit.
Absolument, il y a eu un effacement des frontières entre le privé et le public, vous avez raison de le noter.
On va revenir au standard, évidemment. Il y a autre chose qui m'intrigue beaucoup, Jean-Jacques Cadeau, c'est que donc vous avez vos chiffres, vous les sortez des entreprises qui dépistent. La question que je me pose d'abord, c'est si on dépiste de plus en plus ou au contraire, si on dépiste pas, parce que vous savez, la question que je me suis posée en préparant cette émission, je me suis dit, mince, je sais même pas si on dépiste ici. Enfin, vous voyez, je me suis même dit, en fait, oui, non, je sais même pas si on a le droit, enfin, je sais même pas comment ça marche, en fait, réellement, une entreprise qui dépiste. Est-ce qu'on peut répondre à ça?
Alors, le dépistage, en fait, est autorisé à partir du moment où l'employeur va faire son évaluation des risques et va lister les postes dits hypersensibles qui peuvent être soumis à dépistage. En fait, l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses collaborateurs et, à ce titre, doit assurer leur santé, leur sécurité.
Parce que dans le transport, je comprends pourquoi on dépiste dans la restauration, par exemple. On sait,
alors,
on sait dire ça.
Nous, on dépiste pas dans la restauration aujourd'hui.
D'accord,
voilà, c'est pas notre métier. Mais par contre, dans la restauration, on sait qu'il y a eu des chiffres de la part des cohortes Constance qui ont montré qu'il y a un vrai sujet aussi dans ce secteur-là.
Ça veut dire qu'on dépiste dans les endroits où il va y avoir un contact avec le public. Quand on parle des transports, évidemment, on va prendre le volant ou des choses comme ça. Alexis Péchard, est-ce que la solution, c'est de dépister plus, mais c'est aussi une manière de s'occuper du problème plutôt que d'aller à la source, et la source étant le problème du travail.
C'est là, alors je suis pro-dépistage. Alors, peut-être juste repréciser sur la question du dépistage alcool et drogue, il faut effectivement que ça soit, pour ces raisons de sécurité de ça qui viennent d'être rappelées à l'instant par monsieur Cadeau, ça doit être prévu par le règlement intérieur. Déjà, ça c'est le socle de base. Si ça n'est pas prévu au règlement intérieur, même s'il y a des postes à risque, le dépistage alcool et stupéfiant n'est pas possible. Donc le règlement intérieur reste, d'un point de vue juridique, le socle de base de ce point de vue-là. Donc effectivement, il y a des secteurs qui, par nature, le transport, mais effectivement, l'hôtellerie, café, restauration, on fait partie. Hein, et dans ces secteurs-là, on retrouve aussi des postes à risque. Nous, c'est une des branches que l'on couvre au niveau du cabinet. On couvre aussi la branche du transport de voyageurs. Et effectivement, ce sont des branches, le BTP, ça a été rappelé, qui ont ces cultures de dépistage très fortes parce qu'il y a ces postes à risque. Sur la question de est-ce qu'il faut plus de dépistage ou pas, peut-être, mais je suis partisan de ne pas limiter, en tout cas, les politiques de prévention exclusivement à la question du dépistage, mais d'aller vraiment sur des politiques de prévention qui soit plus ambitieuse sur ce qu'on appelle les trois niveaux de prévention en matière de prévention primaire, secondaire et tertiaire, et en premier lieu sur la prévention primaire et d'interroger l'organisation du travail.
Exactement, et c'est là que veut nous emmener Géraldine. Bonsoir Géraldine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
C'est plaisir d'entendre effectivement comment le débat évolue pour venir poser vraiment la question des raisons de cette situation. Voilà, moi j'ai réagi parce que je suis psychologue du travail et les personnes que j'accompagne qui sont souvent en grand épuisement, éventuellement qui souffrent d'addiction et qui tiennent en fait par des produits, je leur dis que Yves Clos depuis des années, qui est un ergonome, dit qu'il est temps de soigner le travail plutôt que de soigner des milliers de salariés.
Ouais.
Sauf que ça... Ce qu'on essaye de prêcher depuis des dizaines d'années dans notre métier, ben en fait, on a l'impression de prêcher dans le vide. Donc là, je me dis, si on est sous une sidération collective de cette explosion de situations d'addiction avec, en plus, voilà, de la drogue dure, dans le monde du travail, bah, peut-être qu'on va enfin collectivement prendre le problème à bras-le-corps et le problème pour soigner le travail. Alors bien sûr qu'il faut prendre en soin nos salariés qui souffrent, mais c'est vraiment regarder par le petit bout de la lorgnette. Je pense qu'il faut vraiment penser à soigner le travail.
Merci pour votre témoignage, Géraldine. Je voudrais vous soumettre à tous deux messages sur WhatsApp. Il y a Mathieu qui dit « J'ai un travail très stressant où je dois parler devant un grand nombre de personnes, donc je prends un Xanax. Résultat, quand j'ai beaucoup d'événements, je prends beaucoup de Xanax et c'est pas facile à vivre, c'est difficile à vivre », nous dit-il. Il y a Camille qui dit « Beaucoup des chirurgiens que j'ai côtoyés sont malheureusement sous drogue. 48 heures de garde, il faut être réaliste, personne ne peut tenir ça. » Et en effet, on parle des chirurgiens, on parle des internes qui en plus ont la pression dessus parce que ce sont de très jeunes médecins qui évidemment ont la trouille de faire une bêtise. Elle a raison, Géraldine, soigner le travail, soigner les addictions, bien sûr, soigner le travail aussi, évidemment.
Oui, tout à fait. Je connais bien Yves Claude, c'est un ami, donc je partage totalement la question de la qualité du travail qui doit être améliorée et qu'on puisse se retrouver chacun dans cette réalisation. Le véritable problème en France, peut-être par rapport à d'autres pays, c'est la question du management qui est beaucoup trop centralisé, autoritaire et qui tombe d'en haut et qui, en fait, exige des performances sans véritablement discuter des objectifs, sans véritablement permettre à chacun de s'exprimer sur les objectifs qui se sont imposés et qui met, en fait, et qui met ce mode de management, un peu Louis XIVien, met les gens en rideau, en fait. Parce qu'il y a une course à la performance. Et donc, à un moment donné, soit vous acceptez de courir, soit vous descendez du train. Et quand vous avez 50 ans, que vous descendez du train de l'emploi...
C'est mort.
Ben, c'est très compliqué de remonter dans le train. Et ça, c'est véritablement... Moi, je le vois dans les problématiques de syndrome d'épuisement professionnel qui est souvent lié à des addictions. Les gens, en fait, s'en remettent à ça parce qu'ils considèrent que pour éviter une déchéance sociale, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, ils ont tort, hein, parce qu'à terme, ça ne peut durer qu'un temps. Mais de s'en remettre à ces pratiques.
Ce qui est central, c'est la question du sens au travail, en fait, hein, ce qu'il y a derrière.
Tout à fait.
Et oui, qu'on a largement évoqué déjà à plusieurs reprises ici, mais vous avez raison, à la fin, c'est toujours là que c'est... on y retourne. Jean-Jacques Cadeau, je me demandais, quand vous dépistez en entreprise, si vous trouvez, par exemple, qu'il y a... vous avez l'impression qu'il y a un haut pourcentage, est-ce que... qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que vous en parlez, y compris avec les patrons, avec le manager? Est-ce que vous lui dites, alerte rouge, regardez ce qu'on a comme résultat? Est-ce qu'il tombe de sa chaise, en règle générale? Comment ça se passe, en fait?
Alors, toute la suite après ne nous appartient pas, mais le
à un moment, vous avez vos résultats, quoi. Donc
voilà, on essaie aussi d'être force de proposition quand même pour voilà. Le dépistage, voilà, reste un outil en entreprise pour essayer de prévenir les risques liés aux consommations. C'est un outil qui, à notre sens, permet d'aller pour une entreprise, une organisation, d'aller quantifier son niveau d'exposition à ce risque-là, d'obtenir des chiffres au niveau global, d'aller identifier des collaborateurs en difficulté et d'essayer ensuite de leur apporter une solution. C'est probablement sur cette dernière brique qu'il y a encore beaucoup à faire. À notre échelle, on a, nous, relancé une ligne d'écoute post-dépistage positif, une ligne d'écoute anonyme qui est gérée par nos infirmiers professionnels de santé pour que toute personne qui serait dépistée positive puisse en échanger librement avec un professionnel de santé pour essayer de commencer à interroger son rapport au produit. Voilà, essayer de l'amener un nouveau rapport et essayer de diminuer probablement ses consommations. C'est un outil. On voit que ça peut servir parfois d'électrochoc. On a de temps en temps des belles anecdotes, hein, quand on retourne sur des dépistages sur des sites sur lesquels on a pu dépister des personnes positives une première fois, bah, souvent ces personnes-là viennent en tête de file et sont très fiers, en fait, de nous présenter un test qui va être négatif et de nous dire j'ai arrêté mes consommations, je me suis mis au sport, j'ai essayé de faire autre chose. Voilà, ça règle pas tout, le dépistage, mais voilà, ça permet de mettre un chiffre sur quelque chose et d'essayer d'évoquer, d'aborder le sujet.
Et pour revenir au fond à la remarque de notre auditrice Géraldine tout à l'heure, Jean-Claude Delgen, la question qu'on se pose dans ces cas-là, c'est de se demander si on est fier de montrer qu'on n'a plus rien dans le sang parce que le travail va mieux ou parce qu'on va mieux soi. Et si le travail va pas mieux, à un moment ou à un autre, de toute façon, le risque, il est de repartir.
Voilà, je pense que c'est très important. Il y a deux choses qui fonctionnent très bien dans ce cas-là. La première chose, c'est le débat au sein des instances de dialogue social. Quand on met en débat, par par exemple, les indicateurs que vous sortez, il faut les mettre en débat au niveau des CSE, des comités socio-économiques. Faire en sorte que les représentants du personnel s'emparent de la question, y compris que les services de santé au travail s'emparent de la question. Et là, quand c'est systémique, quand tout le monde en parle, là, il y a un véritable élan interne qui va permettre de traiter les problèmes. Ça, c'est sur le plan de la prévention collective. La deuxième chose, c'est la prévention individuelle. Il faut éviter la mise en jugement. Si vous avez quelqu'un qui est, par exemple, concerné par une addiction et que vous lui dites « Ah, tu m'as foutu la honte hier, etc. etc. », vous le jugez et là, ça va le bloquer. Par contre, si vous lui dites « Je sais que tu vas pas très bien et je sais que tu as certaines pratiques, dis-le-moi pour que je ne sois pas, moi, dans des situations inconfortables. » Là, vous ne le jugez pas. Donc, il faut développer ce qu'on appelle la communication bienveillante et non pas le jugement qui est culpabilisant, stigmatisant et qui conduit les gens en fait dans une impasse. Et donc il y a tout un travail à faire pour armer y compris le management dans cette matière pour vraiment sortir les gens de la difficulté.
Et j'imagine que c'est ce que vous voyez vous aussi Alexis Péchard, c'est pas l'addiction qui mène au burn-out, c'est le burn-out qui mène à l'addiction, enfin ça marche dans quel sens en général?
Alors là je sais pas répondre à cette question, j'en suis désolé.
C'est les deux sens.
Moi j'ai plutôt l'impression que c'est le burn-out qui fait qu'on se dit je ne vais pas craquer, donc je vais tenir, donc je vais prendre un truc pour m'aider, et ensuite on se perd là-dedans, quoi.
Je dirais même qu'au-delà de la question du burn-out, finalement, globalement, sur la question des troubles psy, finalement, en fait, l'un alimente l'autre, en fait, vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, souvent en médecine, on parle de comorbidité, c'est vraiment la notion de pathologie associée, pathologie duelle, dit autrement ou plus simplement, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'un entraîne l'autre, alors vous dire qu'est-ce qui est premier, voilà.
On va peut-être demander à Georges. Bonsoir, Georges.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien ?
Je vous entends parfaitement bien, on vous écoute.
Oui, merci. Je ne réagis pas forcément au prénom de Georges, car ce n'est pas mon vrai prénom.
Ah, pardon.
j'ai demandé à ne pas donner mon vrai prénom.
Je vous en prie, voilà. Allez-y.
Moi, je réagis et j'adore ce qui se dit là. Je voudrais remercier Géraldine qui est intervenue, là, la psychologue du travail, qui a dit le terme « il faut soigner le travail ». Je voudrais remercier Jean-Jacques et Alexis. Voilà, moi je suis éducateur spécialisé, 20 ans que je travaille dans la protection de l'enfance. Je vais pas je vais être synthétique sur ce que je peux vivre au quotidien, dans ce que je vois et dans ce que je vis au niveau professionnel. Il y a 20 ans, le management était bienveillant dans la protection de l'enfance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on peut amener deux petites jeunes véridiques de 8 ans au commissariat pour parler de leur viol. Et puis, on rentre au bureau. Il y a 20 ans, eh bien, il y avait tout le monde qui nous attendait pour dire comment ça s'est passé, ça va, comment vas-tu. Maintenant, c'est allez hop, dossier suivant. Mmh. Voilà. Donc c'est tout simplement, je fais partie, et ça a un lien aussi avec votre débat d'hier sur les violences des jeunes. Je suis dedans aussi en tant qu'éducateur spécialisé. Donc moi je suis travailleur social, j'ai fait un burn-out lié à mes souffrances au travail, notamment du fait du management brutal, de plus en plus brutal, qui ne prend pas en compte la santé. La santé des travailleurs qui aiment leur métier et qui font ça parce qu'ils l'aiment, comme les urgentistes, comme les gens qui bossent en EHPAD.
Du coup, vous dites que vous êtes tombé dans l'addiction après le burn-out, parce que je me posais vraiment la question, et je disais ça vraiment très sérieusement, le burn-out d'abord, l'addiction après, pour essayer d'éviter le burn-out, c'est là que le cercle vicieux commence.
Alors, merci. Merci de me réorienter sur... je suis un peu pris d'émotion. C'est interdépendant. Voilà, je suis tombé tranquille et pourtant j'ai travaillé en addictologie en tant qu'éducateur spécialisé, j'ai accompagné personnellement, enfin professionnellement, des gens qui étaient tombés dans des addictions et je suis moi-même tombé dans une addiction à l'alcool, non pas une addiction plutôt invisible et socialement admise à l'alcool, non pas en grosse quantité, mais le petit coup d'alcool du soir pour se détendre, mais qui est devenu, avec l'accoutumance et l'habitude, quelque chose dont je ne pouvais plus me passer si je voulais tenir le coup dans mon travail. Et donc cette addiction a commencé à émerger en parallèle avec le durcissement de mes conditions de travail, ça aboutit à un burn-out, mais burn-out c'est plutôt un terme plutôt galvaudé. Moi quand je vous parle de burn-out, je parle de dépression sévère liée au travail. C'est-à-dire que mon dernier jour de travail, avant mon arrêt de travail, c'est je voulais tourner à gauche, j'ai mis mon clignotant avec la voiture, mais c'est le lave-glace qui est sorti. J'étais délatéralisé, donc c'est vraiment grave.
Merci si, Georges, pardonnez-moi de vous interrompre pour qu'on puisse laisser nos invités débattre sur ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage. Il y a beaucoup de choses qu'on retient dans ce que nous dit Georges. D'abord, on le disait à l'instant, Alexis Péchard, mais effectivement, le burn-out d'abord, l'addiction derrière. Encore une fois, pour tenir, je trouve ça intéressant qu'ils nous disent qu'il y avait autrefois un management bienveillant. Mmh. Les temps ont bien changé aujourd'hui. Encore une fois, c'est là aussi qu'il faut attraper les choses.
Alors, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis moins un expert du management, en tout cas. Mais oui, il y a un vrai...
Mais d'un phénomène de ce genre-là, comme vous en avez pu rencontrer d'autres, j'imagine, de gens qui sont comme Georges et qui viennent vous voir avec
la même histoire, en quelque sorte. Sur le volet accompagnement, donc parce qu'on fait de l'accompagnement de salariés en situation de dépendance, qui nous sont orientés par les services prévention, les services RH, les services de santé au travail. Effectivement, ce sont malheureusement... ces constats-là. Autre constat également sur lequel je souhaiterais quand même alerter, je pense que c'est le moment de le faire aussi, globalement on est appelé un petit peu en mode pompier, c'est-à-dire que c'est des situations sur lesquelles nous on est appelé, mais des situations qui perdurent
en
fait,
et quand je dis perdurent,
en tout cas, alors c'est jamais trop tard, mais c'est des situations dont on a connaissance depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, et en fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un élément déclencheur, il y a eu un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et il y a eu le moment donné, parler de l'alcool, finalement il y a un peu une injonction paradoxale, c'est tout le monde doit consommer, mais si tu consommes pas, arrête-toi en fait, tu nous saoules. Mais consomme comme tout le monde. Si tu consommes trop, à un moment aussi, on va te mettre à l'écart. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et finalement, dans l'entreprise, la personne dont tout le monde parle, c'est celle qui est dépendante. Mmh. Et on ne lui parle plus à elle directement, mais tout le monde en parle à la machine à café, vous voyez.
Et en même temps.
Et c'est à ce moment-là où. Voilà.
Dans toutes les études que j'ai pu lire, il y a aussi Jean-Jacques Cadeau l'idée que quand l'alcool, effectivement, ça se voit. On a du mal à parler, on titube, etc. Enfin, parfois, c'est compliqué. Il y a parfois un choix d'utiliser plutôt, si je puis dire, des médicaments, des choses comme ça, parce que précisément, ça ne se voit pas. En fait, on a même l'impression d'être super en forme. Et c'est aussi l'image qu'on renvoie, en fait. Quand on renvoie une image d'alcool, on renvoie une autre image que le gars qui pète la forme, et sachant que tout le monde sait qu'il a pris un cacheton dans les toilettes, mais après tout, physiquement, il pète la forme, quoi. Donc il y a cette espèce de différence aussi dans ces différentes addictions, non, quand on est au travail.
Alors on dépiste moins nous les médicaments, les produits qu'on va dépister quand on réalise des dépistages, voilà, ça va être alcool, cannabis, cocaïne principalement, un petit peu d'opiacés, lié pour certains.
Un petit peu ou de plus en plus, d'ailleurs.
Alors, il y a un phénomène, mais alors, qu'on peut encore qualifier de signal un petit peu faible, c'est quelque chose, nous, qui nous a interrogé sur nos pratiques de dépistage et qui nous amène à alerter un petit peu nos clients là-dessus, c'est un test, quand on réalise un dépistage, quand il est réalisé sur la catégorie des opiacés, il peut être positif, en fait, lié à des médicaments. De plus en plus, on invite nos clients à systématiser une analyse de confirmation en laboratoire, de manière à être sûr qu'il s'agit bien de stupéfiants et pas de médicaments. Pourquoi on les a incités là-dessus? C'est parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'ordonnances de complaisance, d'ordonnances falsifiées, de choses comme ça, qui nous avaient un petit peu interpellés. À ce titre, en fait, voilà, on les a incités de plus en plus. Et du coup, entre 2022 et 2025, période avec laquelle systématiquement, on propose maintenant les analyses de confirmation avec ce laboratoire, on s'est rendu compte que sur 44 tests qui étaient partis au laboratoire pour analyse de confirmation, 19 étaient revenus positifs à l'héroïne. Donc un peu plus d'un tiers des dossiers qui partent pour ce qu'on pensait. Voilà, là où on pensait avoir peut-être 1 sur 10, 1 sur 20 qui étaient effectivement positifs à l'héroïne. On a probablement une proportion beaucoup plus importante que cela.
Caroline nous dit ceci, mon fils de 20 ans travaille dans un restaurant gastronomique, son chef voulait qu'il travaille plus vite, et un jour il lui a dit, t'as qu'à prendre de la coke. Fermez les guillemets, et ça vous étonne pas une seconde, Jean-Claude Delgen, d'entendre.
Oui, moi j'ai eu un cas dernièrement qui était assez exemplaire, c'est un chef de service qui a réuni son équipe, qui leur a expliqué comment, en fait, pour débrider leur créativité, pour débrider leur cerveau, ils pouvaient acheter, en fait, du LSD en Hollande, en montrant le site, en montrant comment on pouvait procéder. Il a expliqué ses expériences, je dirais, personnelles, comment, en fait, y compris, on pouvait gérer les bad trips avec le Xanax dont vous parliez tout à l'heure, et comment, en fait, on pouvait travailler sur la durée sans pour autant, soi-disant, tomber dans l'addiction. Donc, c'est un chef de service qui fait ça, vous voyez, dans une entreprise qui est elle-même sous-traitante des plus grandes entreprises françaises. Mmh. Vous voyez, donc on a une banalisation en fait là qui est assez inquiétante. Et il est intéressant, comme le disait tout à l'heure Alexis, de vraiment rappeler les règles en matière de prévention, d'informer, de les inscrire dans le règlement intérieur, de mobiliser les acteurs de la prévention, que sont les élus du personnel, la médecine du travail, pour éviter d'en arriver là. Parce que quand vous êtes jeune, que vous tombez dans un service comme celui-là, qu'on vous incite à prendre, je dirais, de la coke ou autre chose, et que vous vous laissez embarquer, bah, vous le payez très
et
cher
vous
pour plus tard.
Vous craignez d'être viré, tout simplement, parce que sinon vous n'êtes pas au même rythme que les autres.
Tout à fait.
Vous avez ce genre de frayeur, c'est quand même terrible. Les drogues de synthèse, quand même, est-ce qu'on les voit arriver de plus en plus, Alexis Péchard, ou pas?
On est sur un phénomène qui est émergent, mais qui est extrêmement inquiétant.
On n'est pas aux États-Unis,
États-Unis. En revanche, il faut être en alerte. C'est une réalité. Aujourd'hui, sur le dépistage,
on en observe très peu.
On ne peut pas nier, les chiffres sont là, effectivement, et on est sur un phénomène qui est extrêmement rapide, même si dans les chiffres, il est encore faible, il est extrêmement rapide en matière d'exponentialité.
On n'a pas le temps de prendre la question de Delphine, mais je vais la prendre dans ma voix. Delphine, pardon, j'ai quitté une entreprise, dit-elle, dans le BTP, parce que l'un de mes patrons était devenu alcoolique, pourtant à la base une drogue douce d'ailleurs, engendrant des comportements inappropriés vis-à-vis de ses employés et même de ses clients. Il y a aussi ce qu'on ne réalise pas lorsqu'on est...
Très envie de réagir simplement sur la notion de drogue douce et de drogue dure. Il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure. On est sur des produits psychoactifs. Ce sont des produits qui modifient le comportement, qui ont des intensités variables, qui sont toxiques et qui ont des caractères addictogènes potentiellement forts. Donc attention
à
ces idées reçues.
Alcool et drogue d'ailleurs dans les dépistages.
Tout à fait.
Très très rapidement parce qu'on y est là. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais simplement dire que le phénomène est plus grave quand c'est une personne clé de l'entreprise. Quand c'est une personne
clé. Ça n'échappe pas au patron, c'est aussi ça que dit le témoignage.
Quand vous avez un créateur, quand vous avez, un petit génie de l'informatique, quand vous avez un grand restaurateur, c'est compliqué, vous voyez. C'est compliqué de pouvoir sanctionner et traiter le problème.
Les amis, merci beaucoup. Merci à tous les trois de votre participation. Merci à tous pour vos nombreux appels. Je ne vous lâche pas quand même sans remercier Philippe Lefebvre et Lionel Thompson pour la jolie semaine à la rédaction en chef du 18-20, à Maury Baucher, Aurore Mansip, Nathalie Poitvin sont à la programmation, Ludovic Asselot à la réalisation, le site et la doc, c'est Ryan Seiby. Et derrière la vitre, au pilotage de la console, il y a Paola Collin et Ronan Mahé.